Vous écoutez, on lit pour vous.
En Asie centrale, la fonte des glaciers menace toute une région. Un texte de Bruno Caloise de l'agence France Presse paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir. À près de 4000 mètres d'altitude au Kirghizistan, la scientifique Gulbara Omurova montre un amas de débris rocheux. C'était un glacier, mais il a complètement disparu. En Asie centrale, où l'eau manque déjà, la fonte des glaciers menace toute une région. Jusqu'à sa fonte, il y a 3-4 ans, c'était un glacier assez imposant avec de la neige même en plein été, raconte à l'AFP la glaciologue dans le nord du pays, au cœur des montagnes du Tian Shan, qui s'étirent à travers toute l'Asie centrale. Les glaciers font office de châteaux d'eau cruciaux pour la sécurité alimentaire des centres asiatiques, alimentant les fleuves notamment durant les mois sans précipitation. Mais ces réserves vitales d'eau douce s'amenuisent inéluctablement dans cette région aride et enclavée, à des milliers de kilomètres des mers les plus proches. « Nous mesurons partout la fonte avec nos balises », alerte Madame Omurova. Et les glaciers ne peuvent pas se régénérer à cause de la hausse des températures, poursuit l'experte de 35 ans, arrivée après 6 heures de marche à la plus haute station scientifique d'Asie centrale, modeste mais cruciale pour l'étude, encore insuffisante, des glaciers. Un peu plus loin, Gulbara Omurova montre le glacier Adjigen, qui recule d'environ 16 mètres chaque année, soit plus de 900 mètres depuis les années 1960. À l'image de la tendance régionale, entre 14 et 30 des glaciers du Tian Shan et du Pamir, les deux principaux massifs montagneux centra-asiatiques, ont fondu ces 60 dernières années, estime la Banque Eurasiatique de Développement dans un rapport. Moyens insuffisants. Les données relevées par Mme Omurova sont inquiétantes, alors que 2024 sera probablement l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon les prévisions de l'Observatoire européen du changement climatique Copernicus. La fonte est bien plus intense que les années précédentes, poursuit la spécialiste, notant déjà une baisse de plusieurs centimètres du niveau de la glace. Mais les moyens sont insuffisants au Kirghizistan, l'une des plus pauvres ex-républiques soviétiques. Nous manquons de matériel de mesure. Il n'y a pas assez d'argent pour tout acheminer vers notre station d'observation où nous n'avons même pas d'électricité, regrette Mme Omurova, appelant à élaborer une loi pour protéger les glaciers. Sous ses pieds, le glacier Adjigen a déjà pris une couleur grisâtre. L'eau de fonte se déverse dans un lac avant de dévaler la montagne dans un torrent tumultueux vers la capitale Bishkek. Plus bas, dans la vallée, à tout de même 2200 mètres d'altitude, les frères scientifiques Erokine, Sergueï et Pavel s'affairent au bord de ce même torrent, potentiellement dangereux à cause de la fonte accélérée. Quand les glaciers fondent, des lacs glaciaires se créent. L'eau s'y accumule et ils peuvent exploser. Cette masse d'eau emporte avec elle des rochers, déboule dans la vallée et peut atteindre la ville, résume pour l'AFP l'aîné Sergueï, 72 ans. Notre tâche est de surveiller la situation en haute montagne, de prévoir les possibles ruptures des lacs glaciaires, d'établir des cartes pour que les gens et infrastructures ne se retrouvent pas dans ces zones dangereuses, poursuit-il. Le cadet, Pavel, change la batterie d'un capteur installé à environ 50 cm au-dessus de l'eau et qui émet un signal radio en cas de crue. Partage complexe des eaux. À l'échelle régionale, la complexe distribution des eaux en Asie centrale, pensée sous l'URSS, mais désormais caduque, reste un sujet épineux, malgré une meilleure coopération interétatique. Les pays se reprochent de ne pas respecter leurs obligations mutuelles en fourniture d'eau, avec le risque latent de voir un conflit éclater. En Asie centrale, les ressources hydriques se trouvent au Kirghizistan et au Tadjikistan, deux pays au sommet tutoyant les 7500 mètres d'altitude et comptant chacun environ 10 000 glaciers, explique Mme Omourova. Nous partageons l'eau avec nos voisins situés en aval, poursuit-elle, en référence au Kazakhstan, à l'Ouzbékistan et au Turkménistan, pays désertiques gourmands en eau où vivent les trois quarts des quelques 80 millions de centre-asiatiques. Et le Kirghizistan, comme le Tadjikistan, multiplie les initiatives pour attirer l'attention sur la catastrophe qui pointe. Avec un certain succès, 2025 ayant été déclaré par les Nations Unies année de la préservation des glaciers. Si, selon les prévisions antérieures, la superficie des glaciers d'Asie centrale diminuera de moitié d'ici 2050 et disparaîtra complètement d'ici 2100, cela pourrait en réalité se produire beaucoup plus rapidement, avait alerté en 2023 le président kirghize Sadir Japarov. Mais les glaciers centra-asiatiques font face à une autre menace. L'appétit grandissant pour les immenses ressources naturelles de la région, comme les terres rares ou l'or. Leur extraction dans des zones montagneuses avec des produits chimiques participe au dépôt de poussière sur les glaciers et accélère leur fonte. C'était, en Asie centrale, la fonte des glaciers menace toute une région. Un texte de Bruno Caloise de l'agence France Presse paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir.
Boîte à lunch sur fond de piscine. Un texte de Sarah Champagne paru le 2 septembre 2024 dans La Presse. Grâce à un couple de retraités de la ville de Montréal, le fond d'une piscine peut totalement changer de vocation. Idem pour les chaises pliantes de parterre des années 1960-1970 avec les bandes orange et brunes. Elles deviennent tantôt des boîtes à lunch, tantôt des sacs, des trousses de cosmétiques ou des étuis de tout genre. José Bolduc, autrefois col blanc au Jardin botanique de Montréal, et Serge Gauthier, inspecteur retraité, transforme des toiles de piscine neuves vouées aux déchets, des toiles d'auvin, des revêtements de chaises pliantes, du vinyle de spa et du vinyle de chapiteau. Même des housses de matelas d'hôpital. Sans trop s'en apercevoir au départ, ils sont devenus des spécialistes de l'économie circulaire. Le couple a fondé une petite entreprise artisanale dans sa maison à l'Assomption, dans la Naudière. Au départ, ce n'était qu'un passe-temps, puis une passion. Aujourd'hui, c'est devenu une deuxième carrière non planifiée avec le bonheur de participer au développement durable, explique Mme Bolduc. Le couple a donné rendez-vous à la presse à l'ouverture d'une foire de rue dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Sur des supports à vêtements portatifs, il a accroché une bonne centaine de créations de son entreprise baptisée Miss Projet SSS. Chacune des créations est unique. Il n'y en a jamais deux pareilles, précise Mme Bolduc. Il y a le grand fourre-tout, offert dans toutes les textures imaginables, le sac de plage et la boîte à lunch deux en un avec son sac isolant. Tout est fabriqué à partir de textiles récupérés, à l'exception de certaines garnitures en coton et des fermetures éclair. J'ai toujours eu un côté manuel. Au début, c'était pour m'amuser, pour occuper ma retraite. J'ai commencé par un petit sac de plage avec des matériaux neufs. Je suis allé le montrer à mon mari qui, lui, a un talent naturel pour l'agencement des couleurs, le design. Puis, tranquillement, l'idée d'utiliser du textile de chaise de jardin à carreaux est apparue, relate Mme Bolduc, en nous dévoilant un prototype conçu avec un échantillon de fond de piscine à motif de galets. M. Gauthier raconte que l'idée de transformer des toiles de piscine leur est venue en allant faire tester l'eau de leur propre bassin de baignade. Sa conjointe venait juste d'acquérir une machine à coudre industrielle. Serge Gauthier se souvient. Au début, les gérants des centres de piscine me regardaient d'un œil bizarre. Ce n'était pas facile de les convaincre. Tant bien que mal, le nouvel entrepreneur est parvenu à glaner des échantillons de toile à gauche et à droite, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Sonia Leblanc, propriétaire de Piscine Rive-Nord. J'ai trouvé leur création, le fun, inspirante, raconte-t-elle. On a souvent des échantillons, des surplus qui, pour toutes sortes de raisons, sont retournés. J'ai contacté des connaissances du milieu de la vente de piscines. J'ai vendu leurs sacs dans mon commerce. On a commencé à les approvisionner. De toute façon, les surplus vont au centre de tri des déchets, explique-t-elle. Après la rencontre avec la propriétaire du centre de piscine, le coffre arrière de la voiture du couple était plein à craquer d'échantillons de toile. Encouragés, José et Serge ont dégoté des retailles de matière isolante pour les boîtes à lunch auprès d'un fournisseur de housses de matelas d'hôpital. Ils ont commencé à récupérer les feuilles de mica recouvrant les fenêtres des abris d'auto, le vinyle neuf de couvercle de spa, le vinyle de chapiteau événementiel, même des housses de barbecue. Les couvercles de spa étaient encore dans leur boîte. Un jour, je suis tombé sur le jackpot, comme on dit. Une cinquantaine de rouleaux de toile d'auvent datant des années 1980. Chaque lot pèse entre 50 et 100 livres. Ils étaient neufs, destinés aux poubelles. On a fait une ligne de sacs avec ces auvents, relate M. Gauthier. Malgré les heures nécessaires à la confection, de 2 à 4 heures selon la complexité du sac, leur prix varie de 20 à 50 $. Les deux entrepreneurs sont en pourparlers avec un regroupement de marchands pour récupérer du tissu. À l'occasion, ils contribuent à des causes. Ils ont notamment aidé la Fondation Gisèle Faubert, vouée aux soins palliatifs, en lui remettant 5 $ pour chaque sac vendu. Leur but n'est pas de prendre de l'expansion, mais de continuer à créer, tout en contribuant à l'économie circulaire, s'entendent-ils pour dire. On veut demeurer à échelle humaine, précise M. Gauthier. En savoir plus? 7,2%. À l'échelle mondiale, seulement 7,2% des ressources sont remises en circulation dans l'économie une fois qu'elles ont été utilisées, selon le Circularity Gap Report 2023. Au Québec, le taux de circularité de l'économie est de plus ou moins 3,5%, matériaux de construction compris. Dans l'industrie du textile, les initiatives demeurent rares. C'était « Boîte à lunch sur fond de piscine », un texte de Sarah Champagne, paru le 2 septembre 2024 dans La Presse.
Les 5 règles d'or d'un team building réussi. Un texte de Maude Goyer, paru le 11 septembre 2024 dans La Presse. Que ce soit pour intégrer de nouveaux membres ou pour mieux comprendre et adopter les valeurs de l'entreprise, les activités de consolidation d'équipe ou team building peuvent être amusantes, éclairantes et efficaces, à condition de suivre certaines règles. En voici 5. Déterminer les besoins. Première étape de l'organisation d'une activité de consolidation d'équipe, réfléchir aux raisons qui motivent ce choix. Pourquoi on veut faire ça? On s'attaque à quoi? Quelle est notre intention? Lance Julie Bourbonnais, psychologue, organisationnelle et associée chez Hors-Piste. Selon elle, il faut évaluer les besoins de l'équipe. Veut-on apprendre à se connaître parce qu'il y a de nouveaux joueurs? Est-ce pour mobiliser les troupes ou se réaligner? Est-ce que l'équipe a des enjeux de communication? Est-ce que le climat est tendu? Il faut se questionner et réfléchir en amont, ajoute-t-elle. Connaître les types de consolidation. Une fois les besoins ciblés, Éric Provencher, psychologue organisationnel, CRHA, et fondateur d'Humana Conseil, recommande de se pencher sur les types de consolidation d'équipe. Bien analyser les besoins et bien connaître les types de consolidation feront foi du succès de la démarche, dit-il. Les activités de team building peuvent être structurelles, opérationnelles, pour régler des enjeux liés à la vision, à la mission ou aux rôles et responsabilités, relationnelles, en lien avec la collaboration, les interactions, le climat, les tensions, par exemple, ou intégratives, pour mieux comprendre comment les liens se tissent et tester leur solidité. Varier les activités. Il y a les classiques, comme les activités de jeux d'évasion, les sorties en plein air, canot, randonnée, hébertisme, les défis, arbre en arbre. Mais il y a aussi des activités qui gagnent en popularité. Des séances de réalité virtuelle, des ateliers de cuisine, des balades en bateau-dragon. La simplicité a bien meilleur goût, rappelle Magali Legault, fondatrice de Magali et compagnie. Parfois, le choix s'arrête sur quelque chose de spectaculaire, comme un tour d'hélicoptère. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le bon choix. Une activité ludique devrait être accompagnée d'une réflexion, d'une rétroaction. Éviter les pièges. Le piège le plus répandu, selon les experts interrogés, se lancer trop vite, sans réflexion en amont. Ou encore, surcharger l'agenda. On va passer à côté des choses essentielles si on essaie d'en faire trop, en peu de temps, souligne Julie Bourbonnais. Bien cerner le but est aussi un défi à ne pas sous-estimer, confie Magali Legault. Il arrive qu'en discutant, on se rende compte qu'on essaie de régler des choses qui ne se règlent pas par une activité de team building. Il ne faut pas se retrouver à prendre un marteau pour enlever une vis. Planifier la suite. Une activité de consolidation réussie est celle qui se poursuit en entreprise dans les mois qui suivent. Il faut apprendre à avoir des conversations courageuses, précise Mme Legault, et mettre des choses en place en lien avec ces conversations et les constats faits. Madame Bourbonnais est du même avis. Les suivis sont essentiels. Sans suivi, c'est un coup d'épée dans l'eau, commente-t-elle. Il faut prendre un engagement et établir un plan de match. Dans les mois qui suivent, on se demande si ça se passe bien, s'il faut se réajuster et où on en est. C'était les 5 règles d'or d'un team building réussi. Un texte de Maude Goyer, paru le 11 septembre 2024 dans La Presse.
Ces auteurs qui tiennent la route, Franz Kafka, un texte de Stéphane Pichet, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. Prophète malgré lui. Au moment où vous lisez ceci, il est possible que l'actualité littéraire vous ait déjà convaincu que Franz Kafka est un auteur qui tient la route. Après tout, celle-ci est friande d'anniversaire, et c'est en juin 1924 qu'est mort Kafka, un auteur alors presque sans œuvre. Qu'est-ce qu'un auteur qui tient la route? Je propose cette définition. Plus qu'un auteur à lire, c'est un auteur à relire. Ce qui place le docteur Kafka dans une catégorie à part, celle d'un auteur archi-connu, mais sans doute pas assez lu ou apprécié. Le succès posthume de Kafka peut être attribué à son originalité. C'est l'œuvre d'un individu unique, dans un contexte historique inédit, un juif allemand vivant à Prague, alors partie de l'Empire austro-hongrois. L'ère des empires est alors dans ses dernières années, la Tchécoslovaquie sera créée en 1918. Kafka fait donc partie d'une double minorité, même si, en tant qu'Allemand, il fait partie de l'élite dominante. Ajoutons à ces ingrédients un puissant sentiment d'étrangeté, d'inadéquation, qui le tenaille depuis l'enfance, et le résultat est une œuvre semblable à aucune autre, dérangeante, exigeante. Ce caractère unique vaudra à la langue française l'adjectif kafkaïen qui, dans le langage courant, sert à nommer ces situations incompréhensibles ou inextricables, des pièges existentiels. Pour explorer le Kafka dans sa particularité, le Kafka kafkaïen, si j'ose dire, lisez La Métamorphose ou Les Nouvelles d'un médecin de campagne. Plus personnel et dans un sens plus dérangeante, La Lettre au Père, jamais envoyée, est à lire. Pour la petite histoire, Franz l'aurait remise à sa mère pour qu'elle la donne au père. Mais en jetant un œil au contenu, elle aurait décidé d'épargner le choc à son mari. Bien sûr, l'originalité seule ne fait pas l'écrivain, et l'on peut évaluer son universalité à son influence sur la littérature du XXe siècle. Il est certain, en tout cas, que l'œuvre de Kafka a préfiguré la philosophie de l'absurde. Un chapitre annexe du « Mythe de Sisyphe » d'Albert Camus porte d'ailleurs sur l'œuvre de Kafka, où l'on apprend que l'œuvre véritablement absurde de Franz est le procès. Par sa façon de conjuguer réalité et rêve, le cauchemar, il annonce d'une certaine façon le surréalisme. Dans « Premier manifeste du surréalisme », publié en octobre 1924, donc quelques mois après la mort de l'écrivain pragois, André Breton parle de « la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité ». Programme déjà en partie réalisé par Kafka, en quelque sorte. Bien entendu, ces deux facettes, originalité et universalité, font la grandeur de l'auteur. Pensons au Don Quichotte de Cervantes, fondateur du roman moderne, tout en étant le fruit d'un contexte on ne peut plus particulier. De la même façon, on peut certainement voir Kafka comme l'un des fondateurs d'une certaine modernité tardive. Kafka prophète. Avec son imaginaire pétri d'horreur et de masochisme, il semble avoir prévu l'ère concentrationnaire. Il est difficile en tout cas de ne pas être frappé par l'aspect annonciateur du procès, pour moi son grand chef-d'œuvre, avec son invisible et implacable bureaucratie et sa finale désespérément grandiose, mais aussi par celui de la colonie pénitentiaire où l'on assiste à un supplice digne du futur nazisme. Un mot sur les nombreuses éditions disponibles en français. Snobisme mis à part, je recommande chaudement, si vous pouvez vous le permettre, la célèbre collection en papier Bible de chez Gallimard, la Pléiade. Elle a l'avantage marquant d'être la seule basée sur la plus récente édition officielle en langue allemande. Toutes les traductions ont été révisées et on trouve de nombreuses explications sur les choix des traducteurs dans le précieux appareil critique. C'est la version obligatoire pour les études savantes. En format de poche, plusieurs traductions coexistent. Au moment où j'écris ceci, deux folios reprenant l'édition Pléiade vont paraître au début de l'été, à savoir « Le procès » et « America », aussi appelé « Le disparu ». L'édition du journal dans Folio, un travail récent qui date de 2021, ne semble pas avoir été préparée par la même équipe que celle de la Pléiade de 2022. Sinon, les traductions traditionnelles d'Alexandre Vialat, découvreur en France de l'écrivain pragois, sont les plus connues et les plus souvent prescrites. C'est sans doute pourquoi on les garde en vie. Je n'ai pas eu l'occasion de fréquenter les nombreuses éditions récentes chez Pocket, GF, Le Livre de Poche, etc. Votre libraire pourra vous aider au besoin. Anniversaire oblige, je prends le temps de souligner quelques-unes des nombreuses parutions au sujet du maître pragois. D'abord, J'irai chercher Kafka de Léa Weinstein, Flammarion, qui raconte avec intelligence et sensibilité l'enquête de l'autrice sur les manuscrits de Kafka. C'est à la fois une quête littéraire et un fascinant récit de soi. Aussi, Franz Kafka ne veut pas mourir de Laurent Seksik, apparaître en juin chez J'ai lu. Enfin, si comme moi vous vous intéressez à la vie de l'auteur et au contexte de l'écriture de l'œuvre, vous voudrez sans doute vous plonger dans la monumentale biographie en 3 tomes de Rainer Stasch, publiée en français en 2023 au Cherche Midi. Le premier tome est à paraître en juillet chez Le Livre de Poche. Un véritable travail d'historien, retournant aux sources plutôt qu'aux récits secondaires et confrontant les différentes versions des protagonistes. En somme, un ouvrage d'histoire autant qu'une biographie et même, par moments, un essai. Pour finir, une anecdote. Samuel Beckett n'a lu qu'un livre de Franz Kafka, Le Château. Je m'y suis senti chez moi. Trop. C'est peut-être cela qui m'a empêché de continuer. Il est rare qu'on se sente chez soi dans cette œuvre, même son auteur s'y sentait parfois exclu. Mais on y reconnaît cette éternelle étrangeté, et peut-être qu'elle nous aide à comprendre l'absurdité du monde. Du moins, il faut l'espérer. Mais l'important, bien sûr, c'est l'œuvre. Allez-y, lisez Kafka, en navire, à pied, même à cheval. Il tient la route. C'était « Ces auteurs qui tiennent la route », Franz Kafka, un texte de Stéphane Pichet, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires.